de m'avoir mis dans une posture indélicate, puisque vu que vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire à la fin, je vais devoir donc vous faire par sketch. Alors, si vous avez lu un petit peu Marc 4 en avance, vous savez que bon, semeur, le grain, tout ça, on va peut-être y arriver. À la fin du chapitre, il y a une tempête. Ça, malheureusement, je ne sais pas. À moins que vous ayez des verres d'eau à me jeter à la figure. On verra. J'espère que vous allez bien. Je vous sens un peu... Non, ça va, vous êtes prêts? On va ouvrir la parole de Dieu. Je voudrais prier avant de commencer. Seigneur, on veut te remercier et te remercier parce que tu es un Dieu vivant. Et on veut ouvrir ta parole pour être enseigné avec force, avec vérité, Seigneur. Que tu puisses t'approcher de nous, toucher nos cœurs, changer nos vies, Seigneur. On veut apprendre de toi quelque chose ce matin et je sais que tu as quelque chose à nous apporter. Amen. Tout d'abord, j'ai reçu un bon nombre de recommandations me demandant de vous saluer fraternellement de la part de votre église à Grenoble. Beaucoup de frères, dont mon beau-père ce matin, avant que je quitte la maison, m'a dit « Surtout, surtout, tu les salues bien chaleureusement. » Alors vous voyez, je suis venu en t-shirt. La chaleur devrait, voilà, vous avez compris. En tout cas, je suis très honoré de pouvoir être là ce matin avec vous, de pouvoir partager ce texte avec vous. Quand on m'a demandé de prendre Marc 4, je suis tout de suite allé voir dans ma Bible. Il me semblait que je n'étais pas encore devenu tout à fait fou et qu'on allait parler du semeur. Je me suis dit, aïe, 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 le semeur. Je suppose que vous avez déjà entendu, je ne sais pas, peut-être une centaine de prédications mélangées avec les études d'école du dimanche. Je me suis dit jusqu'où je vais, qu'est-ce que je vais bien leur raconter de nouveau, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apporter, à travers la parole bien sûr, pas de moi. Est-ce que je vais jusqu'au blé, est-ce que je parle du pain de vie, comment je vais pouvoir m'en sortir. Et puis j'ai relu, et puis j'ai eu un problème. Deux versets, en l'occurrence, m'ont posé problème. Mais bon, on va y revenir tout à l'heure. Et pour commencer, je vous ai mis 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, j'aimerais qu'on garde ce passage dans notre tête, chacun, moi y compris, pour que, en lisant Marc 4, on puisse être enseigné, convaincu, corrigé s'il le faut, et instruit dans la justice. On va commencer avec le contexte. Normalement, vous ne devriez pas trop être perdu, puisque vous êtes dans une suite. Donc si la logique est logique, vous avez fait Marc 3, merci. Et donc dans Marc 3, on vous a dépeint un Jésus bien déterminé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Déjà, il s'est choisi ses 12. D'accord ? Il a son petit quorum de disciples. Ensuite, il a décidé de parler que en parabole. Donc on sous-entend qu'il y a une petite stratégie quand même derrière. Ensuite, entre deux, il nous a expliqué que le péché du Saint-Esprit était un péché irrévocable. Et il a terminé par nous apprendre que, en gros, sa famille, eh bien, c'est ceux qui le suivent. Ce qui, je pense, a dû faire plaisir à sa mère, à ses frères et sœurs. Mais, en tout cas, ça dénote que Jésus est en train de se détacher de sa vie d'homme en tant que tel, de frère, d'enfant. Il se détache de cette vie pour rentrer pleinement dans son ministère, dans l'avancement de son royaume. Et on en est là, justement. On en est là, puisque le royaume est en marche. Et la parabole du semeur, c'est clairement, nettement, l'explication de ce qu'est le royaume de Dieu, le royaume de Jésus. Alors, je vais vous faire une petite remarque, je ne sais pas si mes frères vous l'ont fait, mais Marc a été fortement, aidé, poussé, voire même peut-être insufflé complètement par Pierre, cet évangile. Certains même se permettent de l'appeler l'évangile de Pierre, tellement il a insisté. Et de toute façon, quand j'ai relu le chapitre 3, on voit bien la marque de fabrique de Pierre. C'est incisif, c'est précis, on rentre dans le sujet, n'y a pas de souci. Alors la parabole du semeur. J'ai oublié la petite... Voilà, le contexte, le semeur. Donc on va aller relativement vite, parce que je pense que vous savez ce que c'est que la parabole du semeur. Vous avez dans le texte, je vais imager, vous avez le début du texte, c'est la parabole du semeur, deux petits versets qui vont nous poser quelques questions, et ensuite l'explication de Jésus de la parabole du semeur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lié à chaque fois, donc le semeur, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un semeur, je pense que vous comprenez, mais on va directement aller sur l'explication de Jésus lui-même, donc à savoir que le semeur, c'est Jésus lui-même, d'accord ? Et non pas comme on dit mes chers bambins créados il y a deux semaines, ils m'ont dit que c'était le bon samaritain. Ou un agriculteur, ils m'ont dit. Mais j'ai dit non, c'est Jésus lui-même en fait. C'est une image pour dire que c'est Jésus lui-même. Ce qui est important de voir dans le semeur, c'est que il n'y a que Jésus comme semeur. Et il n'y aura que Jésus. Quand vous prenez le début de l'évangile de Jean, il est dit que tout a été fait par elle, la parole incarnée, Jésus, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ce semeur-là, c'est le seul et c'est l'unique. Il ne faut pas en entendre d'autres. Il n'y a que lui qui va semer. Ce qui veut dire que Dieu était à l'initiative. J'ai aimé une prière tout à l'heure qui a dit que tu nous as choisis. C'est toi qui as l'initiative de ce qui se passe dans nos vies. Et c'est la vérité. C'est Jésus le semeur. Et nous, on est dans la terre. On n'est pas au même niveau. Mais on reviendra là-dessus. Le grain. Le grain, c'est la bonne nouvelle. C'est la parole de l'évangile. C'est l'annonce de l'évangile. On est tous d'accord là-dessus ? Le grain, c'est Jésus qui s'incarne et qui vient nous apporter son message d'espérance. 1 Jean 2,2 nous dit « Il, Jésus, est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. » Non seulement pour les nôtres, mais pour tous ceux du monde entier. Christ, il a payé pour nos péchés, au passé, au présent et au futur. Et dans son amour, il a arrosé la bonne nouvelle dans toutes les terres. Il ne s'est pas contenté d'aller chercher le cœur qui est prédisposé, qui est bien disposé pour que la graine grandisse. Non, il a arrosé tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est bénéficiaire, mais on n'est surtout pas acteur. Je vais vous reciter Éphésiens 2,8. Le salut par la grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et avec la prochaine remarque, vous allez comprendre la difficulté qui a été la mienne de préparer ce message, parce que je vais devoir rentrer ce matin dans des sujets qui, je sais, ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Dans le sens où la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est joyeux, c'est bien, c'est, comment dire, on est content d'annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas ? On est content de le vivre, on sait que c'est la seule espérance qu'on a. D'accord ? C'est comme ça qu'on présente à nos amis qui ne sont pas chrétiens. Mais j'aimerais qu'on finisse la phrase. C'est une bonne nouvelle qu'à partir du moment où tu l'acceptes. Si tu ne l'acceptes pas, c'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est sûr et certain. Et même, Jésus va plus loin. Dans Matthieu 10, 34, je vous laisserai le prendre peut-être plus tard. Dans Matthieu, Jésus va plus loin. Il dit même qu'il est venu, non pas comme un sujet de paix, mais comme une épée qui va séparer le père du fils, la fille de la mère. Pourquoi ? Parce que ça demande quelque chose de suivre Jésus. Et Jésus dit dans Matthieu 10, 34, et les versets qui suivent, si tu ne te sépares pas et si tu ne me mets pas en premier dans ta vie, tu n'es pas digne de moi. Ça commence bien. On arrive aux terres. Les terres, excusez pour l'anglais, a priori les Français n'aiment pas faire des petites paraboles. Plusieurs terres. Qu'est-ce que c'est que ces terres ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est notre pensée ? Est-ce que c'est notre cœur ? Et est-ce que je suis figé dans une des terres ? Ou est-ce que je peux bouger ? Ou est-ce que dans ma vie, je vais pouvoir changer, etc. ? La première terre, le long du chemin, c'est un cœur qui est étanche à Dieu. Il est étanche parce que la graine, elle ne rentre même pas dans la terre. elle ne rentre même pas dans ton cœur. Et pire, Satan vient tout de suite avec un oiseau et il enlève la bonne nouvelle. Donc tu ne connaîtras pas un cœur étanche à Dieu. Deuxième terre, pas beaucoup de terre, rocailleux. Ça veut dire que la parole, tu l'as prise, tu l'as rentrée en toi, elle a commencé à grandir, et puis, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans ta vie. Dieu, quelque part, t'a un peu éprouvé, a testé ta foi, et t'as tout renié. Troisième terre, parmi les épines, celle-là, je l'ai appelée 50-50. Parce que c'est un peu du monde et un peu Dieu. Oui, la parole, elle est rentrée dans la terre. Oui, elle a grandi, l'épine a commencé à sortir. Mais oui aussi, t'aimes tellement le monde et tu te fais tellement avaler par les soucis du monde que Dieu ne peut pas grandir dans ta vie. Et il reste la bonne terre. Une terre, un cœur à l'écoute de Dieu. C'est pas nouveau, Jérémie 17:9 nous a dit « Le cœur de l'homme est tortueux. » Il est rempli de tout. Soucis, peurs, fausses convictions, péchés, mauvaises habitudes. Et Jésus nous dit surtout, n'écoute pas ton cœur, mais regarde à moi. Il faut lui accorder toute notre confiance. Matthieu 6, 31-34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alors je voudrais faire une remarque, pour ne pas être non plus trop condamnant. La remarque, c'est que peu importe l'état de ton cœur aujourd'hui, peut-être que tu es complètement étanche à la parole de Dieu, à Jésus. Peut-être que tu es un peu fragile, un peu superficiel, ou peut-être que le monde... Bah, tu sais pas trop, ça te plaît quand même, il y a des choses bien dans le monde. Mais ce qui se passe avec Dieu, c'est mieux. Ou peut-être que tu es dans la bonne terre et tu es en train de grandir avec Dieu. Quelle que soit ta position, sache, et ça a été aussi une prière tout à l'heure, que Dieu est là, à chaque instant, à chaque moment. Il est mort sur la croix pour ça, pour qu'on puisse revenir sans cesse à la croix, pour qu'on puisse de nouveau comprendre le vrai message est être dans la bonne terre, le laisser en nous agir par son esprit. En tout cas, c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Qu'on puisse grandir, qu'on puisse tous être dans la bonne terre, se laisser modeler par Dieu. Voilà la parabole du semeur. Je vous avais dit, c'était court. On a parcouru ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on va arriver maintenant à deux versets. Et je remercie les frères de m'avoir laissé marquer 4. Verset 11. Il leur dit, Jésus, à ses disciples, en particulier, hein, il n'est plus devant la foule. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que tout en regardant, ils ne voient pas, qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas. De peur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne leur soient pardonnés. Bon, on va y aller par étapes, d'accord ? Tout d'abord, on parle du mystère du royaume de Dieu. Une petite définition de ce qu'est le royaume de Dieu. Eh bien, en fait, si vous attendez à une place ou à un état ou je ne sais pas quoi, eh bien, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, l'avancée du royaume de Dieu, c'est là où il agit avec puissance, avec fermeté, avec vérité. Et je suis ce matin dans une partie du royaume de Dieu, puisque nous sommes, nous ses enfants, son Église, nous sommes l'avancée du royaume de Dieu. Vous êtes, je suis, en tant que chrétien, le royaume de Christ, son épouse. On est d'accord là-dessus ?
Oui.
Et nous devons accepter, en tant qu'enfant obéissant, qu'il y a des choses du royaume de Dieu que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas voir et accepter de notre point de vue humain, d'accord ? Alors pour imaginer ça, rien de mieux que de prendre un bon passage dans l'Ancien Testament, un bon passage qui parle d'un potier, en Jérémie 18, pour nous faire comprendre qui est Dieu par rapport à nous. Jérémie 18 à partir du verset 3. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous, comme ce potier, maison Rusonra ?» dit l'Éternel. « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » J'ai mon témoin de mariage est potier, et il m'a imagé ça en m'expliquant en fait pourquoi le potier. Et quand vous êtes potier, vous prenez de l'argile, déjà vous maltraitez l'argile au possible pour évacuer les bulles d'air. Et vous montez votre pot. Et quand le pot il est monté, il est beau, il est magnifique, c'est pas fini. Vous prenez un couteau et vous allez tailler dans le pot. Parce qu'il faut enlever absolument toutes les impuretés. Il faut enlever toutes les bulles d'air. Il faut tout enlever. Vous savez pourquoi? Parce que si ce pot passe à la cuisson pour être terminé, puisque c'est que comme ça qu'il durcit l'argile, eh bien il explose. S'il y a une bulle d'air ou une impureté. Eh bien, ce que Dieu est en train de dire, c'est que c'est pareil avec nous. Ça nous fait mal, les épreuves par lesquelles on traverse. Certes, mais quelque part, c'est parce que Dieu, lui, sait toutes choses. Et il sait que, quand on passera devant son jugement, si on n'est pas prêt, ce ne sera plus une bonne nouvelle pour nous. J'ai envie de dire, et j'ai compris aussi, qu'en tant que créature, est-ce qu'on doit avoir la prétention de réclamer à Dieu la connaissance de toutes choses afin de discerner tout ce qu'il a prévu pour nous ou pour les autres? Non. Dès le début de la Genèse, le péché originel, il est là-dedans déjà, dans ce problème-là. On veut savoir le bien, le mal, on veut savoir nous et pas toi. Mais non, c'est pas ça que Dieu il a prévu. Dieu, créateur, a créé l'homme. Et tout ce qu'il demande à l'homme, c'est de lui faire confiance, c'est le créateur. Imaginez ces petits pots d'argile. Oh, non, je ne la veux pas à gauche, je la veux à droite. Imaginez le potier entendre le pot, il dit quoi? Tu m'as parlé, toi? Attends, toi, je ne t'aime pas en fait, je t'écrase et je vais en refaire un autre. Est-ce que le pot trouverait ça injuste? Mais il n'a pas trouvé ça injuste. On n'est pas sur le même pied d'égalité. Avec nous, c'est pareil. Nous devons une soumission. Nous, les Français en plus, une soumission. Une soumission parfaite et complète, comme Jésus nous l'a enseigné au travers de sa propre existence sur terre. Cette soumission, nous la devons à Dieu. Nous avançons toujours dans ces deux versets. On a vu le mystère du royaume de Dieu, ceux du dehors. Ceux du dehors. Comment vous enseignez ceux du dehors? Les autres, ceux qui ne sont pas dans le royaume de Christ, ce sont ceux du dehors. Ce sont les autres, ceux qui refusent Dieu, ceux qui ne veulent pas Dieu, ceux qui ne veulent pas vivre avec Dieu. Ce sont les autres. Et gardez ça en tête, parce qu'après, ça va être un peu compliqué pour eux. J'aimerais quand même faire deux remarques sur ceux du dehors. Même si Dieu dit là, dans ce passage, qu'ils ne vont pas comprendre le message de la parabole. Ils ne vont pas le comprendre. Malgré tout, Dieu, dans son amour, leur donne quand même le message, en parabole, mais il leur donne quand même. J'en connais bon nombre d'entre nous, moi le premier, qui, si je savais que je ne voulais pas Guy à manger à la maison, mais je ne vais surtout pas lui dire qu'il y a un bon repas qui se fait à Grenoble. Vous voyez, je parle en parabole, un bon repas à Grenoble. Je ne dis pas que c'est chez moi. Et si je ne veux pas qu'il vienne manger chez moi, je ne lui en parle même pas. Par contre, si je veux quand même qu'il essaye de faire travailler son grand cerveau intellectuel, je vais lui dire, il y a un bon repas à Grenoble. Si c'est moi qui lui dis, il va faire le lien, il va comprendre la parabole. Bref. Deuxième remarque, et ce qui est la plus importante pour moi. Si Dieu se permet, entre guillemets, de parler de ceux du dehors, comme ça, en disant qu'ils ne vont pas comprendre, qu'ils ne vont pas se convertir, nous, chrétiens, nous ne devons pas parler de ces gens comme ça. D'accord? Christ, en parlant comme ça, refaites-vous le film. Semeur, grain, terre, l'annonce de l'évangile. Là, il est en train de toucher un point sensible en disant « C'est moi le Dieu souverain, c'est moi qui choisis. » Mais ça n'empêche pas que nous, en tant que chrétiens, on doit avoir une attitude. On doit garder intact le témoignage de Jésus dans notre vie. On va s'aider avec un verset de Colossiens 4, versets 5 et 6. Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ce n'est pas à nous de juger. Nous, nous devons être les mêmes. Un peu comme notre Dieu. Il est le même, il ne change pas vis-à-vis des gens. Et on doit être pareil. Et pourquoi je vous dis ça? Je pense en particulier aux gens, aux personnes qui ont décidé d'être homosexuels. Parce que ça m'a beaucoup travaillé cette histoire-là, depuis que je suis tout gamin. Et je me dis, dans la Bible, on nous demande d'aimer les hommes. Alors certes, ce qu'ils font déplaît à Dieu. Mais eux, précisément, les personnes, nous devons les aimer. Et vous savez quoi? C'est parce que nous les aimerons. C'est parce que nous allons témoigner de l'amour de Dieu pour ces gens-là que peut-être ils vont se convertir. Peut-être qu'ils vont arrêter. Et on a des exemples, nous, dans notre église. Alors, je dois faire une pause, puisque nous arrivons au verset qui va faire plaisir à tout le monde. Je le dis un peu de façon décontractée, parce que même moi, ça m'a beaucoup travaillé. Comment annoncer à une église qui a l'habitude, comme la mienne, d'entendre dire que Dieu est amour, que Dieu... Vos prières, les chants qu'on a chantés. Dieu ouvre grand ses bras, accueille tout le monde. Et là, on lit un truc, franchement, de premier abord, Jésus qui dit surtout, je parle en parabole parce que je ne veux pas qu'ils comprennent. Et je ne veux pas qu'ils comprennent parce que je ne veux pas qu'ils se convertissent. Parce que je ne veux pas qu'ils soient pardonnés. C'est pas moi qui le dis. Hein. On va relire les deux versets pour qu'on soit bien d'accord. Il leur dit, Jésus parle à ses disciples. C'est à vous qu'il a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Afin que tout en regardant, ils ne voient pas. Que tout en entendant, ils ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Alors, certains vont dire, oui, mais là, ceux du dehors en particulier, il est en train de parler des pharisiens. Eh bien, pas exactement en réalité. Quand vous grattez le texte réellement, que vous le remettez dans son contexte, etc., que vous vous appuyez sur d'autres textes, en l'occurrence, ici, on est en train de parler d'un sujet, et je laisserai la grande joie à vos anciens de vous l'enseigner, je suis sûr qu'ils l'ont déjà fait, la doctrine de l'élection. Je laisserai vos anciens s'approcher avec vous. Mais si vous, vous avez des questions, ou si vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire, alors, pour vous convaincre, non pas moi, mais comme le verset que j'ai affiché tout à l'heure, que la parole puisse vous convaincre, lisez Éphésiens 1. Et vous comprendrez que oui, on a une doctrine de l'élection. Nous sommes élus, le peuple élu. Élu, ça veut dire choisi. Ça veut forcément dire que si nous on est choisi, eh ben il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors peut-être que ça nous pose un problème. Certainement, ça nous pose un problème. Mais on va voir, on va se poser des questions. Quelque part, comme les peaux, on ne doit pas oublier notre position. Là, on est en train de parler de Jésus, Fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui rentre pleinement dans la Trinité, donc Dieu, d'accord, Jésus, qui est Créateur. Et nous, créatures, on dit, oh, t'es censé être amour. Et du coup, quand je dis ça, t'es vraiment amour? 1 Jean 4,8, oui, il est amour. Bon, ok. T'es amour. Mais ça paraît quand même injuste, cette histoire-là. T'es en train de choisir, t'es en train de dire lui, pas lui, lui je veux pas. C'est pas juste. Est-ce que Dieu, toi, tu es juste? Oui. Deutéronome 32,4. Dieu est juste. Ok, ça voudrait donc dire qu'en réalité, Dieu, tu es souverain. Tu décides tout seul, sans nous. Ben oui. Daniel 5,21. Dieu est souverain. Alors, si on creuse de façon un peu plus, on va dire, posée, ok, mais ça veut dire que le salut, c'est pour tout le monde, ou pas? Oui, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tous soient sauvés. Il les graine, il les a semés dans toutes les terres. Alors, ça veut dire que, est-ce que ton dessein, il est bienveillant? Parce que quelque part, tu choisis, etc. C'est peut-être un peu tordu quand même. Comme, ah oui, Dieu, Le dessein de Dieu est bienveillant pour nous. Psaume 25, 10. Alors je me suis dit, pour continuer à expliquer et à gratter cette notion d'élection avec vous, je me suis mis dans votre peau à vous ce matin. Je me suis dit, voilà, ces deux versets, comment je peux les comprendre si je suis ce matin quelqu'un qui ne cherche pas Dieu? On m'a forcé, je suis un jeune, j'ai pas envie d'être là, ou je suis un ancien, ou ça fait belle lurette que je viens, mais ça m'intéresse pas trop en fait. Je suis là par habitude ou parce que j'aime bien mes amis. Après, je sais qu'on va manger chez Guy, donc je suis là. C'est sympa. Est-ce que je suis banni définitivement quand on lit ces deux versets? Ben, j'ai envie de dire non. Non, parce qu'on sait par d'autres textes qu'on est libre de choisir. Dieu sait dans cette salle qui lui appartient et qui ne lui appartiendra jamais. Mais Dieu le sait, pas moi, pas vous. Dieu simplement le sait. Je voudrais te dire à toi, si ce matin tu es là et que tu ne cherches pas Dieu, que ça ne t'intéresse pas plus que ça. Déjà, je me demande ce que tu fais là, mais enfin bref, si tu es là, ben sache qu'aujourd'hui, Dieu, moi, les frères et sœurs qui sont ici, te sache averti. Tu es un auditeur averti. Tu dois t'approcher de Dieu. Pas pour nous faire plaisir, même pas pour lui faire plaisir à lui. Mais c'est pour te sauver toi. Si tu es là ce matin, deuxième type de personne, tu connais Dieu, entre guillemets, tu t'es approché de temps en temps, peut-être qu'un jour tu as même fait une prière, mais bon, c'est pas parlant dans ton cœur. C'est pas vraiment ce qui dirige toute ton existence. Si tu en es là ce matin, ma prière, je t'en supplie, laisse le Saint-Esprit faire son travail. Si Dieu est venu frapper à ta porte, ouvre cette porte, laisse-le entrer, laisse-le faire le ménage, laisse-le diriger dans ta vie. Et tu sais pourquoi? Parce que qu'est-ce qui peut être mieux que d'être dirigé par celui qui t'a fait? Qu'est-ce qui peut être mieux? Toutes les bêtises qu'on nous montre ici dans le monde, mais c'est éphémère. Ça ne sert à rien. Et si tu ne l'as pas compris, un jour tu vas le comprendre. Si tu veux même une histoire pour te faire comprendre ça, je t'invite à prendre Luc 15, le fils prodigue. Tu verras. Lui aussi, il ne savait pas trop, il a Dieu, pas Dieu, et puis il est parti faire la fête. Et puis il a fini comme des cochons. Et puis il est rentré. Il est rentré parce qu'il a demandé pardon. Choisis, nous sommes choisis par Jésus. C'est un privilège ultime. Et qu'est-ce qu'on fait de ce privilège? Comment nous vivons notre vie avec Jésus tous les jours? Vous voyez, quand on a lu ces deux versets, il dit, ah, mais c'est pas possible, Dieu il est amour. Non, mais peut-être qu'il y a une explication, peut-être qu'on peut tordre le texte dans d'autres sens. Parce que c'est que les pharisiens peuvent... Si vous voulez. Mais le texte, si je le lis en français, il est quand même clair. Pourquoi chercher une explication autre que celle qui est là? Pourquoi essayer de trouver une différence d'opinion autre que celle qui est là? J'ai envie d'obéir. J'ai envie de faire confiance à Dieu. S'il veut choisir, eh ben c'est pas mon problème. Parce que vous savez quoi? La bonne nouvelle de tout ça, c'est que finalement, moi j'ai été choisi. Alors ok, c'est peut-être malheureux pour ceux qui ne le seront pas. Mais il n'y a que Dieu qui s'arrangera avec eux. Mais nous, ce matin, on doit être heureux. Vous imaginez? Vous avez été choisi par Dieu. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça tous les jours? Comment on vit avec ça tous les jours? C'est ça le message central de la parabole du semeur. C'est ça ce message. Tu es choisi parce que tu es aimé de Dieu. Qu'attends-tu pour le servir, pour avancer avec lui, pour le laisser te transformer? Et vous savez quoi? Jésus, il savait qu'on allait prêcher comme ça. Il le savait. Parce qu'il finit la parabole du semeur en disant quoi? Peut-être que j'avance. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et porte du fruit. Et oui, frères et sœurs, si on a compris le message de l'Évangile, si on est d'accord pour dire que Dieu est souverain, si on est en paix et dans la joie parce qu'on sait qu'il nous a choisis et qu'on veut avancer avec lui, on doit porter du fruit. On doit porter du fruit. On doit. C'est pas une option. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Jean 15, verset 4, nous dit qu'il faut être connecté, il faut demeurer en Jésus pour porter du fruit. Et Matthieu 7, 20 nous dit même, va plus loin. C'est que normalement, si je ne suis pas chrétien et que je vous croise, parce que tu portes du fruit, je dois reconnaître que Christ agit dans ta vie. Matthieu 7, 20. Ils reconnaîtront que vous m'appartenez parce que vous portez du fruit. Alors, soyons bien d'accord. Le fruit de l'esprit. C'est pas le fruit de nos actions. C'est pas le fruit de nos pensées. Le fruit de l'esprit. Ça sous-entend quoi ? Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il faut l'avaler quand même, hein. Qu'est-ce que Christ veut nous dire quand il dit qu'il faut porter du fruit ? Il veut qu'on soit responsable. Il est là, lui, il a semé en nous, il nous a choisis. Et il a dit maintenant, avance. Avance. On doit être responsable. Si je pêche consciemment devant Dieu, en sachant tout ça, quelque part, il faut quand même que je me pose des questions sur mon engagement avec Dieu, sur ce que ça veut dire que appartenir à Jésus. Ici, qu'on soit très clair, je l'ai mis en rouge, en surligné, au milieu, je ne parle pas de la perte du salut. Vous savez, un jour, un de mes jeunes, au groupe de jeunes, j'ai été avec mon épouse 13 ans, responsable du groupe de jeunes, on parlait du salut, de ce que croient certains sur la perte du salut, etc. Lui, il lève la main, il dit, mais je comprends pas, comment on peut perdre quelque chose qui ne nous appartient pas ? Ça, c'est pas bête, ça. C'est vrai. Le salut ne nous appartient pas. C'est un cadeau. On nous l'a donné. Comment voulez-vous le perdre ? Pour le perdre, il faudrait que celui qui nous l'a donné dise qu'un jour, il vient de le reprendre. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, peu importe ce que tu fais, si tu m'acceptes, je te le donne. C'est gratuit. C'est cadeau. C'est pour toi. Quand je parle du fait de porter du fruit et que ça soit réel dans nos vies, je parle, vous savez, de tous ces petits arrangements qu'on a avec nous-mêmes, de tout, dans notre vie quotidienne, les petits moments où, oui, on connaît la vérité biblique, on sait ce qu'il faut faire, entre guillemets. Mais bon, aujourd'hui, on va un peu le mettre de côté parce qu'on a envie de se faire plaisir, nous. On a envie d'assouvir nos propres désirs, nos convoitises, nos mensonges, et moi le premier. Et on laisse pas Dieu agir dans nos vies. Vous savez, j'ai vu une prédication de John Piper cette semaine. Et dans cette prédication, il disait que Satan attend de nous, nous, les chrétiens, il attend de nous que nous ne portions pas de fruits. Soyons bien tranquillement installés dans notre vie, avec un salaire, une voiture, une maison. Non pas que ces choses soient mauvaises, mais tout dépend de l'attitude de cœur. Et soyons bien confortablement installés dans nos vies, pour que surtout, surtout, on ne soit pas utilisable par Dieu. On ne porte pas de fruits, surtout. Ça, c'est ce que Satan veut dans nos vies. Est-ce que c'est ce que nous, on veut ? Oui. Si vous annoncez à un groupe d'homosexuels ou à un groupe qui dit « Je suis Charlie », qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord parce que vous croyez en Jésus, vous risquez peut-être de passer un sale quart d'heure. Peut-être que même dans certains pays, comme le Niger en ce moment, c'est plus qu'un sale quart d'heure. Mais vous savez quoi ? Il y a des choses apparemment qu'eux ont compris que nous, on n'a pas compris. Parce que quand eux servent le Seigneur, il n'y a pas de doute. Bien sûr qu'ils souffrent. Bien sûr que c'est dur. Ça n'enlève pas la peine. Mais ils sont sûrs de pour qui ils sont en train de souffrir. Alors peut-être que vous allez me dire, ok, moi c'est Seb. Peut-être que vous allez me dire, ok Seb, on a compris, il faut porter du fruit, pas de problème. Mais comment on fait? C'est quoi la recette? C'est quoi le chemin? Par où on commence? Ok, je veux servir Dieu, j'aime Dieu. Combien de fois j'ai entendu ça de la bouche de Jeanne? J'aime Dieu, j'ai envie de le servir. Fais-le. Fais-le. Oui, mais comment on fait? Mais comment on fait? Il y a une chose qui est simple, vraiment simple. Si je veux aimer mon fils qui a 9 mois, si je veux lui donner de l'amour, ben je vais passer du temps avec lui. C'est simple, comme bonjour. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple. Quand on prend du temps pour prier avec Dieu, je ne sais pas vous, est-ce que vous êtes déjà chronométré quand vous priez? Alors les anciens, aujourd'hui, vous êtes forcément plus forts que nous, parce que c'était aussi une habitude. Et nous, les jeunes, si on prie chronomètre en main, si on prie 1 minute ou 2 minutes, c'est déjà le bout du monde. D'accord? Après, on s'arrête, t'imagines, on prie 2 minutes. Il faut qu'on lise un petit peu, qu'on s'abreuve, peut-être boire un café, puis après, on peut recommencer. Ou alors, en réunion, on attend que chacun ait fini, pour pouvoir recommencer, au cas où ça nous ferait du mal de prier 2 fois de suite. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un exemple que je vais vous prendre par rapport à ma femme qui appelle sa sœur. Ma femme prend son téléphone, elle sait ce qu'elle veut dire à sa sœur. Bon, des fois, pas grand-chose, mais elle sait, quelque part, qu'elle va dire quelque chose à sa sœur. D'accord? Elle prend le téléphone, elle compose le numéro. Allô, comment ça va? Ça va, il fait beau, machin, peut-être que le moment où elle va vraiment dire ce qu'elle voulait dire, il se sera peut-être passé 3, 4, 10 minutes avant que l'information soit vraiment donnée. C'est une façon amusante de vous dire qu'avec Dieu, c'est exactement la même chose. Passez 2 minutes avec Dieu dans la prière. Consacrez dans la prière 2 minutes. Tout seul, dans votre chambre, devant votre Bible, vous voulez parler à Dieu. Et vous voulez que Dieu vous parle. Au bout de 2 minutes, comparaison à 1 heure, je ne vous fais pas un schéma, vous comprenez. 2 minutes, vous serez à peine rentré devant la porte de l'Éternel. Au bout d'une heure, vous serez en train de boire le café avec lui. Et donc ça veut dire qu'au bout d'une heure, ce que Dieu va vous apporter, puisque ça va être un retour, au bout d'une heure, ce qu'il va vous donner sera beaucoup plus grand, beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Le temps qu'on passe avec Dieu, c'est ça la vraie solution pour porter du fruit. J'ai parlé 37 minutes. J'ai pas encore tout fini. Je vais raccourcir la fin. Puisque on en est à porter du fruit. Dernier verset de la parabole du semeur. Et Jésus passe sur une autre parabole. Comme il est intelligent et pédagogue, notre Jésus. Comme il est fort. Il passe sur une autre parabole. Il vient nous expliquer l'évangile. Comment ça marchait. Que c'est lui qui décidait. Que c'est lui qui prenait toutes les décisions. Qu'on devait être heureux parce qu'il nous a choisis. Qu'il faut porter du fruit. D'accord? Et la parabole suivante, il dit, bon, maintenant que vous avez compris ça parce que je vous l'ai enseigné, expliquez-moi pourquoi la lampe, vous la mettez sous le boisseau. Expliquez-moi pourquoi la lumière, donc lui qui brille dans notre cœur, pourquoi vous prenez ma vie qui doit refléter et briller partout autour de vous, pourquoi vous dites, ah non, mais ça c'est une conviction personnelle, ce sont ma pensée à moi, si tu veux, moi je lis ma Bible, et voilà. C'est pas ça que Jésus nous demande. C'est pas du tout ce qu'il nous demande. Vous savez ce que c'est qu'évangéliser? C'est ni plus ni moins que redire ce qu'on a entendu. Dieu, en la personne de Christ, nous a donné un message, une bonne nouvelle. On a accepté ce message pour nous, ça c'est une chose. Et ensuite, cette bonne nouvelle, on la retransmet. Avec ça. Une bouche. On doit témoigner. On doit témoigner. Si ça brûle à l'intérieur de nous parce qu'on aime Jésus, on doit témoigner. Pour nous encourager, Paul nous a laissé 2 Timothée. Je ne sais pas si je l'ai mis, celui-là. Non, je ne l'ai pas mis. 2 Timothée 1,7. Pour ceux qui me diraient, mais moi je suis timide, je ne peux pas parler facilement, etc., etc. Nombre de passages dans notre parole. La parole de Dieu qui nous dit, si tu ne sais pas quoi dire, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit qui est en toi, lui, il va savoir. Prie pour ça et tu verras. Et là, dans 2 Timothée 1,7, Jésus, à travers Paul, nous apprend quoi? Il nous dit, ben, c'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. C'est pas un esprit de timidité. Regardez les mots qu'il emploie. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est costaud. Hein. C'est pas de force, d'amour. C'est de force, d'amour et de sagesse. En Christ, notre esprit qui vit en nous, il est fort, il est rempli d'amour et il nous donne la sagesse. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Nous devons témoigner avec cet esprit-là. Jésus, il fait une petite blague. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Verset 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il est taquin des fois. Hein. Si vous avez des oreilles pour entendre, bah, normalement, on en a tous, sauf accident de parcours. Qu'il entende. Et vous savez, en fait, dans tout Marc 4, il y a un champ lexical. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Entendre, écouter, voir, etc. Tout ce qui a rapport à la compréhension, tout ce qui a rapport à l'attention, à l'écoute. Et pourquoi Jésus, dans cette parabole, dans ces deux paraboles, insiste là-dessus? C'est pour qu'on soit conscient de notre responsabilité aussi. Il n'arrive pas en disant, bon, alors toi, je te mets des ficelles, puis c'est moi qui vais te diriger, tu vas aller là-bas. Non, 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 non. Il est devant ta porte. Si tu as choisi, il rentre dans le ménage chez toi. Et il te dit, maintenant, c'est moi qui dirige. Regarde ce que la parole, elle dit. Il faudrait faire comme ça, comme ça. Je vais m'en aller, mais je te laisse le consolateur. C'est l'esprit qui est en toi, qui est donc moi, un peu compliqué tout ça, mais c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous fait agir. Si on l'écoute, on agit. Si on ne sait pas l'écouter, on n'agit pas. Et c'est un apprentissage. Vous vous rappelez les quatre terres? Je vous ai dit qu'on pouvait bouger des fois, être complètement étanche, ou être par les soucis, ou aimer plus le monde, ou être carrément dans une bonne terre aussi. Et Christ va aller plus loin. Je vais finir peut-être là-dessus. Car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça, c'est du bon français. Donnez ça à un prof de philo, vous le perdez. Même à celui qui n'a pas, ben, on lui enlèvera quand même. Qu'est-ce qu'il veut dire là, Jésus? Alors, vous savez, dans nos Bibles, normalement, on a des petites sur le côté, ou au milieu, ou en bas, ou en haut, comme vous voulez. Vous avez des petites annotations, ou des références de versets. Et là, typiquement, vous avez une référence qui va à Luc 8, 18. Et Luc 8, 18 nous dit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. »
Oui.
Ça veut dire quoi? Il faut qu'on fasse attention aux fausses doctrines. À ce que nous sommes sûrs de croire. Dieu, il est amour avec un cœur grand comme ça. Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau, allez, tout le monde... Non. Dieu, il est amour, certes, pleinement amour. Et il est aussi pleinement juste, pleinement saint. D'ailleurs, on dit lui qu'il est trois fois saint. Il est pleinement compatissant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se faire des idées, des opinions par rapport à la parole. La parole va avec la prière, si vous voulez nourrir l'esprit en vous. En nous. Je ne peux pas me dédouaner de ça non plus. J'aurais voulu finir un peu plus loin, mais est-ce que vous me le permettez? 43, j'ai été un peu long. Juste pour terminer. À la fin du chapitre 4, on a deux choses qui vont se passer. Donc il n'y a plus une parabole, hein, c'est une tempête. Bon, là-dessus, j'aurais aimé développer, mais peut-être une prochaine fois. Mais avant cette tempête, Jésus prend ses disciples à part. Et dans le verset 33-34, il dit « Voilà, je vous enseigne en parabole, mais je vous explique. » Et ça m'a fait penser que Jésus, là, il est doué. Il est vraiment doué. Il a annoncé l'évangile. Il a dit qu'il était souverain, dans nos versets 11 et 12, un peu compliqué. Il a dit qu'il fallait qu'on porte du fruit. Il a dit « Attention, pas sous le boisseau, mais tu dois témoigner, tu dois parler pour moi. Laisse l'esprit agir dans ta vie. » Mais il n'enlève pas l'enseignement. Il n'enlève pas l'enseignement. Nous devons être enseignés. Et nous devons être enseignés le dimanche matin, ok, éventuellement dans la semaine la réunion de prière, ok, mais surtout, surtout dans nos cultes personnels. Nous devons passer du temps devant la parole de Dieu et l'étudier, la méditer, tous, chacun. Il y a une espèce de folie collective dans nos églises évangéliques. peut-être pas dans la vôtre, hein, mais en tout cas dans la mienne, je le sais, où en fait, tout le monde dit « Ah non, 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 mais il y a des gars qui sont là pour enseigner. Hein. » C'est un don d'ailleurs, un don d'enseignement, ok. Don d'enseignement pour être là, devant vous. Peut-être, je suis pas sûr de l'avoir, mais en tout cas, on est devant vous. Mais chacun d'entre nous, alors vous allez me dire « De quoi tu parles ?» On va terminer là-dessus, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah oui, mais ça, c'est aux apôtres qu'il a dit ça. C'est pas à nous. Donc ça veut dire qu'il n'est pas avec nous jusqu'à la fin des jours. Il n'est pas avec nous. Il est avec les apôtres, il a été, mais pas avec nous. Enfin, j'allais dire malheureusement, c'est pas malheureusement, mais c'est en fait, on associe malencontreusement l'évangélisation et le discipulat. Mais ce sont deux choses différentes. L'évangélisation, c'est j'annonce la bonne nouvelle, je transmets la bonne nouvelle, et le discipulat, c'est je partage avec mon frère, j'enseigne avec mon frère, je lui donne les vérités pour qu'il grandisse lui, pour que lui ensuite puisse, avec un autre frère ou une autre sœur, progresser et avancer. C'est ça, faire des disciples. Et j'en étais pas convaincu jusqu'à un frère qui vient de me voir et me demande « Au fait, toi qui es engagé dans l'église, toi qui prêches de temps en temps, toi qui aimes la parole, qui aime Dieu visiblement, où sont tes disciples ?» Pardon ?« Mes disciples ?» Et oui, bah oui. Christ nous a donné un commandement parmi tant d'autres, mais en tout cas un qui est vraiment fort, c'est aller dans toutes les nations faire des disciples. Je dis, mais ça c'est pour les missionnaires. Il dit non, c'est pour tous les chrétiens. Reprends le texte. Ils sont où nos disciples? Alors certes, pour toutes les personnes qui sont plus âgées que moi et qui ont des enfants un peu plus grands, c'est là nos premiers disciples. Nos enfants. Nous devons enseigner nos enfants. Mais pas que. Si vous avez des amis, si vous avez des voisins, si vous avez des gens que vous croisez avec qui vous arrivez à partager, c'est notre rôle de chrétien. Si vous aviez la solution au pire cancer du monde, si vous aviez la solution, le remède gratuit, vous iriez l'annoncer. Mais s'il y avait une méthode derrière pour que ça fonctionne encore mieux, ben vous iriez aussi donner la méthode et vous apprendriez avec l'autre à avancer, à grandir. Je pense que vous avez compris que dans Marc 4, il y avait une ligne directrice. Il y avait une ligne directrice. Christ, il n'a pas fait n'importe quoi, comme d'habitude. Il y a quelque chose de magnifique dans la Bible, c'est que tout, il y a une logique parfaite, la logique de Dieu. Christ, il enseignait sur le semeur, il enseignait l'évangélisation, le fait d'annoncer la bonne nouvelle. Il a rappelé que c'est lui et lui seul qui choisit et qui décide, parce qu'il est créateur, nous sommes créatures. Il nous a rappelé qu'il fallait qu'on porte du fruit, qu'on laisse le Saint-Esprit agir dans nos vies. Et ensuite, un peu plus loin, il nous a rappelé qu'il fallait aussi témoigner et qu'il fallait qu'on soit enseigné et que nous enseignions nous aussi. Que le Seigneur puisse nous encourager, qu'il nous fortifie dans sa parole. Et encore une fois, si vous avez des questions sur l'élection, Dieu se tient à disposition pour répondre à vos questions. Merci.